Fred Film Radio, Cinéma du Real, Paris, France.
Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. Aujourd'hui, dans le cadre du 39e Festival Cinéma du Réel, je vais m'entretenir avec Sylvain Georges de son film qui est en compétition internationale, Paris est une fête. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Alors c'est un film que vous avez sous-titré Film en 16 vagues et qui, en effet, fonctionne un peu comme une lame de fond. Moi, j'ai trouvé très immersif et ça se fait progressivement comme ça. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce sous-titre Film en 16 vagues ?
En 18 vagues.
En 18, pardon.
En fait, l'idée, c'était d'essayer de détourner un peu des mots qui sont confisqués. Déjà, Paris est une fête, par exemple, ça fait évidemment référence au livre d'Hemingway, qui a été rendu d'autant plus célèbre par les paroles de cette vieille dame, interrogée par une chaîne d'infos en continu après les attentats. Donc, les ventes ont de nouveau augmenté suite à cet entretien. Ensuite, la mairie de Paris a repris ce titre pour donner dans la foulée, pour créer un dispositif du même nom, pour promouvoir la culture et le tourisme en France. Et puis il y avait un cinéaste qui voulait aussi faire un film sur d'après ce titre-là, enfin en faisant référence à ce titre-là. Et ce mot, d'une certaine façon, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant d'essayer de le détourner, en tout cas ce titre-là, de le détourner des usages un peu contemporains qui en étaient faits. Et c'est un petit peu aussi la même chose pour vague, c'est-à-dire vague, c'est un mot très polysémique et en fait qui a été confisqué d'une certaine façon. Cette confiscation amenait d'une certaine façon une certaine stigmatisation des personnes. On parle de vagues d'immigration mis au même niveau que les vagues d'attentats. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de jouer sur ce mot-là. Déjà parce qu'il renvoyait évidemment au témoignage du protagoniste, Mohamed, qui raconte sa traversée. Évidemment, donc la dimension liquide, les vagues comme ça sont présentes. Et puis, cette personne venant en France, avec d'autres personnes réfugiées, j'ai imaginé que ça pouvait être, c'est un peu un jeu avec une phrase de Lucrèce qui parlait des naufragés sans spectateurs. Comment est-ce qu'on réagit lorsque un naufragé tombe, ça fait appel comme ça, ça a un positionnement éthique et politique. Et donc du coup, j'ai essayé de, à partir de ce mot-là, d'élargir un petit peu sa signification, en tout cas ce à quoi il pouvait faire référence. Et donc ces personnes comme ça qui viennent, ces naufragés d'une certaine façon, qui viennent s'échouer sur les côtes, font aussi référence à un certain type de naufragés sont échoués, les naufragés de la politique française, par exemple qui sont dans les rues de Paris, ou d'autres types de naufragés, c'est-à-dire des populations qui sont un peu stigmatisées et non considérées. Et puis l'idée de la vague, c'est ce que vous disiez aussi, cette espèce de lame de fond, c'est-à-dire comment il peut y avoir un sentiment de répétition du même, etc. Et comment, dans le même temps, moi c'est ce que j'essaie de montrer, comment dans le même temps, cette répétition-là, elle peut aussi créer de la différence, c'est-à-dire comment des choses nouvelles, des gestes nouveaux peuvent émerger, peuvent venir d'une certaine façon discuter, voire renverser un certain état des choses.
Oui, puis des gestes de cinéma aussi, parce que le mot vague, il a aussi des accents très cinématographiques. Et justement, au-delà de la réalité qui dépeint, c'est un film qui a vraiment une forme très importante, notamment un travail d'extraction et de juxtaposition, ou au contraire de décalage entre le son, les images, les bribes, qui est fait avec beaucoup de soin. À quel moment vous avez senti que cette forme-là, cette utilisation des éléments sonores et visuels allait vraiment être l'épine dorsale de l'expérience du film ?
J'ai toujours travaillé un peu comme ça. Moi, je suis très... j'essaie d'exploiter les ressources un peu... d'exploiter, de développer, d'apprendre, d'appréhender en fait les ressources du médium cinématographique, c'est-à-dire de jouer avec les sons, les images, les couleurs, le noir et blanc, les rythmes, dans un langage qui se trouve être défini petit à petit et qui va d'une certaine façon, qui rompt d'une certaine façon avec la grammaire généralement admise dans le cinéma traditionnel ou dans ce qu'on appelle le documentaire. Donc moi je suis très ouvert et très intéressé par la plasticité comme ça des différents matériaux, que ça soit la lumière, l'image ou autre, de jouer, c'est-à-dire comment en travaillant sur ces ressources du médium on peut petit à petit attester de réalité qui par ailleurs peuvent être parfois couvertes ou non couvertes par les médias dominants, mais là les attester d'une façon plus singulière, en essayer de transmettre à la fois des idées mais aussi des sensations, un ressenti, voilà. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là qui, par un jeu comme ça, un peu foisonnant parfois, permet de traduire et de définir aussi mon positionnement par rapport aux situations rencontrées.
C'est vrai qu'il y a un foisonnement et en même temps... C'est vraiment soigneusement orchestré parce que on regarde, on est obligé de regarder. En plus, c'est beau. On est obligé de voir les visages de statues, de choses devant lesquelles on passe tous les jours, mais qu'on voit pas parce que peut-être on a le nez dans son téléphone ou quelque chose. Et on voit des visages, du mouvement, de l'arrêt et de nouveau, et puis la jungle, et puis la ville, la collectivité, la solitude. Et il y a comme ça une espèce de progression sensorielle quasiment. Mais comment elle a été façonnée dans la mesure où vous ne pouvez pas savoir à l'avance que vous alliez voir ces manifestations? Comment vous avez façonné cette expérience?
En essayant de m'attacher notamment au sujet rencontré, c'est-à-dire déjà Mohamed. C'est-à-dire, mon idée au départ était d'essayer de travailler sur ce qu'on appelle la question des jeunes mineurs étrangers isolés dans les rues de Paris. Les questions migratoires sont des questions, moi, qui m'intéressent, sur lesquelles je travaille depuis mes débuts et qui vont encore m'occuper un moment. Et là, j'avais envie de travailler un peu cet aspect de la question de façon évidemment non exhaustive. Et donc, en l'ayant rencontré, on a commencé à marcher, à déambuler, à rencontrer un certain nombre de... à aller dans un certain nombre de lieux qu'il a pu fréquenter ou qu'il aurait pu fréquenter ou que des amis à lui ont fréquenté. Et puis évidemment, c'est propre à Paris, on passe des figures du centre, des lieux centraux à des interstices. On passe de ce que Michel Lussault appelle des hyperlieux à des ce qu'on pourrait appeler peut-être des hors-lieux, entre guillemets, c'est-à-dire des lieux qui sont invisibilisés ou qui sont mis à l'écart, qui sont... En déambulant comme ça avec Mohamed, on découvre d'une certaine façon comment des décisions politiques ou autres peuvent agir sur les corps, les récits, les lieux. Et puis petit à petit, comme ça, par ces éléments comme ça qui viennent se télescoper, il y a des éléments un peu plus parfois indirects qui viennent aussi se rencontrer, s'entrechoquer. Et c'est notamment la question, par exemple, de Mohamed amène à la question des réfugiés, donc à l'évacuation des camps des réfugiés. Réfugiés qui se trouvent à un moment donné sur la place de la République, non loin d'un mausolée. Un mausolée qui devient aussi à un moment donné un lieu où va s'expérimenter de nouvelles formes, de pratiques politiques. Et puis qui va être aussi témoin, cette place éminemment symbolique, de manifestations contre un certain nombre de décisions prises par un gouvernement censé représenter les gens qui les ont élus. C'est un film qui, d'une certaine façon, télescope comme ça des scènes qui, en apparence, ou des moments ou des événements qui, en apparence, pourraient paraître très séparés les uns des autres, mais qui, en fait, ne le sont pas du tout. Et d'un point de vue cinématographique, ça renvoie, c'est un film qui joue à la fois avec certaines propositions menées par des gens comme Vertov, mais aussi, plus généralement, la tradition du film dit de ville, comme ça, c'est-à-dire on va jouer sur des motifs, comme les motifs de la lumière, qui étaient propres à la modernité en fait, et qui ont été développés et exploités dans les films dits de ville, les films symphoniques du début du 20e ou de l'avant-garde. Le film essaie de dialoguer aussi avec ces éléments-là, ce qui permet aussi de se réinscrire d'une certaine façon dans le temps long. C'est-à-dire que j'essaie de réinscrire un certain nombre d'événements qui participent de l'actualité dans une certaine forme aussi d'inactualité dans le temps long, mais j'essaie de le faire de façon plastique. Et cette recherche-là, évidemment, elle s'inscrit aussi dans le temps long, donc dialoguant avec des formes qui participent parfois du début de l'histoire du cinéma.
Oui, c'est vrai que le film est porté par une sorte d'élan, il se meut vers l'avant, et qu'en même temps, effectivement, il a une autre dimension qui est en profondeur, en durée. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il avance, on pourrait aussi s'enfoncer dans chacun de ses instants ou de chacun de ses gestes ou de ses objets, comme par exemple ce carnet d'écriture qu'on aperçoit. Voilà.
Le carnet d'écriture, il est très intéressant parce que ça fait partie, c'est ce qu'on pourrait appeler un geste. C'est-à-dire, en même temps qu'il y a un geste très joyeux. Moi, je dis, le film est aussi joyeux. Alors, parfois, dans les débats, on me dit, oui, mais alors, elle est où la fête? Qu'est-ce que c'est la joie? Pourquoi la joie? Bon. Mais la joie, c'est aussi se sentir. C'est aussi ce travail qu'un individu peut effectuer dans la définition ou la recherche de sa propre liberté, d'une certaine façon. C'est là où il y a aussi quelque chose de joyeux, au sens spinoziste du terme, d'une certaine façon. Et cette joie, elle s'exprime aussi par des gestes qui paraissent de différentes natures, qui peuvent paraître très... parfois minime, mais qui en fait ont une réelle effectivité. Et par exemple, ce jeune Afghan que j'ai fréquenté longtemps, qui consigne comme ça des impressions de ses voyages ou des souvenirs de sa terre natale, comme ça, c'est un geste joyeux aussi, un geste de résistance, un geste qui lui permet aussi de travailler sur son intimité, donc aussi sur sa liberté, quoi. De la même façon, il peut y avoir ce geste, des gestes de certains manifestants, comme il peut y avoir le geste de Mohamed, qui va faire une espèce de chorégraphie dans l'espace avec ses mains qui vont prendre différents. En fait, Mohamed, c'est aussi un rappeur. On était dans le sud de Paris, sur les rails, on se promenait, et puis il allume sa cigarette, et puis il jette une allumette, et puis il s'amuse à me raconter comme ça sa nouvelle chanson, donc il commence à rapper sa nouvelle chanson, et évidemment il s'accompagne des mains. Et je lui dis, écoute, ça serait peut-être intéressant, là j'ai envie de filmer les mains, continue. Et donc j'ai commencé à filmer les mains. Et puis on a commencé petit à petit à travailler parce que, et je lui dis, mais c'est marrant, là, il y a une expression, il y a une expressivité évidemment des mains, bon, mais qui est parfois plus ou moins soulignée. Et petit à petit, là, il en arrivait à proposer un certain nombre d'éléments très signifiants, je trouve, avec ses mains. C'est la main, comment dirais-je, la main qui rampe, la main qui prie, la main qui appelle, la main qui se révolte, le poing qui se ferme. Voilà, et j'ai trouvé que c'était extrêmement beau et j'ai l'impression que ces gestes. Renvoie d'une certaine façon à ces gestes de ce que Frantz Fanon appelait les fêtes de l'imaginaire. C'est-à-dire comment l'appel à l'imagination permet justement de décloisonner, de déverrouiller des situations, de sortir de certaines situations complètement forcloses les unes sur les autres, et donc d'ouvrir les espaces, d'ouvrir les temporalités, de s'ouvrir à quelque chose d'impossible en fait.
Et ce cornu dans la jungle, est-ce que vous l'avez placé là ou est-ce qu'il s'y trouvait ? Quand vous courez, courez, quand il y a cette espèce de poursuite dans les feuilles comme dans une jungle.
En fait, c'est une scène, là pour le coup, totalement fictionnelle. C'est la première fois que j'essaie de faire ça en fait dans un film. C'est une scène un peu poétique, allégorique, qui, comme une scène un peu dialectique, qui condense en fait, qui ramasse un peu, qui exprime aussi sous le mode sensoriel, qui tend à exprimer un sentiment peut-être un peu personnel de ce que j'ai pu aussi ressentir et comprendre des événements pendant un an. C'est-à-dire, c'est une scène qui, pour moi, exprime à la fois le sentiment de l'abandon, qui peut exprimer peut-être la crise de la transmission entre générations, la crise donc de l'expérience, d'une certaine façon, qui met en avant aussi le primat du petit, la vulnérabilité, et donc par là même aussi une certaine puissance, parce que ce qui se dégage aussi de ce corps dont on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, c'est une dimension un peu indéterminée. Alors, cette part indéterminée... qui nous fonde tout à chacun, qui est partie intégrante de tout à chacun, en fait, de chaque individu, c'est cette part qui permet à un individu, justement, d'échapper aux représentations qui sont déjà construites, aux représentations qu'une société peut véhiculer sur tel groupe social, telle origine ethnique, etc. Comment, en fait, cette part indéterminée permet à des individus d'engager un processus d'individuation, ouais, d'émancipation, qui permet à échapper des déterminismes. C'est-à-dire que c'est une scène qui, de façon très poétique, allégorique, en fait, essaye de traduire ce sentiment-là. On ne sait pas au début si c'est une personne qui est chassée, ou bien si c'est un chasseur, si c'est un chasseur prédateur à la poursuite d'une proie ou d'une victime, puisqu'à un moment donné, on ne sait pas qui avance. Le jeu des postures, il y a un jeu sur les postures. On ne sait jamais vraiment en fait ce qui est en train de se passer. Il y a une dimension un peu comme ça délibérément trouble entre guillemets comme ça trouble indéterminé qui renvoie à cette part à la fois à l'abandon et aussi à l'indétermination.
Cette scène là dont on vient de parler renvoie quelque chose un peu permanent, d'une permanence, d'une immuabilité, ce Paris qui est là dans le silence de sa nuit ou je sais pas quoi, qui rend du coup ces combats qu'on suit pour la place de la République frénétiques, chaotiques.
Les manifestations viennent en contrepoint avec les scènes de Mohamed, par exemple. Mais ce ne sont pas du tout des points d'opposition. C'est plutôt, moi je trouve, des points de complémentarité, des points communs. Quelque part là, qu'est-ce qui se donne à voir ? Mais c'est un geste qui tend à vouloir définir d'autres lignes de fuite, qui tend à définir d'autres visions du monde, qui tend à définir d'autres possibilités et formes de vie. De la même façon que Mohamed, quand il quitte son pays, il émet là, dans l'espace et dans le temps, un geste qui est aussi une ligne de fuite, se donner les possibilités de construire son devenir, de sortir des places assignées dans son pays. Et c'est là où il y a des points communs, quand même. Et il y en a de multiples autres, on pourrait détailler encore plus. Et c'est moi, ça, c'est ce qui me semble extrêmement important, d'autant plus que parmi les protagonistes aussi de ce genre de manifestation, il y en a beaucoup qui, par ailleurs, ont été aussi solidaires avec la question des réfugiés, ne sont pas dans la division, dans le rejet de l'autre, dans la disqualification permanente de la pensée critique à laquelle on assiste depuis plus de 30 ans. Ouais. C'est pour ça que, pour moi, je trouve qu'il y a des points communs. C'est des images qui s'inscrivent dans des registres différents, plus intimes et en plus faisant appel à l'imaginaire avec Mohamed, plus de l'ordre du document, de la réalité dans les manifestations, mais qui, pour autant, sont, à mon avis, très interconnectées.
J'aimerais bien vous interroger sur ces scènes et comment vous les avez filmées, parce que vous êtes vraiment au cœur de l'action. C'était vraiment chaud à filmer.
Bon, je travaille toujours avec la même caméra, donc j'ai un dispositif très, très simple, c'est-à-dire une caméra qui est une très bonne caméra, qui n'est pas très ostentatoire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas énorme.
D'accord.
Avec deux prises micro pour essayer d'avoir une palette sonore la plus importante, la plus intéressante.
Vous êtes visible avec...
Très visible, très visible. Alors là, c'est très compliqué parce qu'on se retrouve dans une position... On se retrouve là, paradoxalement, assigné à une certaine place qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire qu'en gros, on est pris dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'on est à la fois ciblé par la police. Moi, très clairement, j'ai reçu des lacrymos, mais à tir tendu, hein. Voilà. Des grenades lacrymogènes, des grenades de désencerclement dans les jambes, enfin des choses comme ça. Et de l'autre côté, on est sujet à la suspicion des manifestants, c'est-à-dire qu'ils considèrent que les médias, et pour une certaine partie, dans un certain sens, c'est extrêmement compréhensible, que les médias instrumentalisent les faits, ont une approche extrêmement partisane. Et donc on est dans une position un peu ambivalente. Moi j'ai plutôt une certaine empathie avec les causes, les arguments, les revendications portées par les manifestants, et on se retrouve associé, assigné à une place qui n'est pas la mienne, c'est-à-dire du côté de la place des médias un peu collaborateurs entre guillemets, hein, ouais. Collaborateurs entre guillemets. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup ça interroge d'autant plus sur la façon de se présenter. C'est-à-dire que quand on fait un film, ou en tant que cinéaste, je considère que c'est important de se présenter, hein, quand je vais voir que ce soit à Calais ou dans d'autres lieux, si faire un film c'est construire une présentation de certaines réalités, la première étape peut-être d'un film c'est de savoir se présenter. Et alors là, dans une manifestation, comment se présenter, surtout dans ce contexte-là où systématiquement on est associé à une posture qui n'est pas la sienne. Et donc là, c'est pas évident parce que j'en arrivais même à me demander s'il fallait pas que j'ai des signes distinctifs. Je sais pas. Je suis un cinéaste. Vous voyez, c'est des questions encore en suspens. Donc moi, pour l'instant, j'étais extrêmement clair dans mon positionnement dans l'espace, c'est-à-dire que j'allais jamais me ranger du côté de la police, parce que la façon dont on occupe l'espace quand on filme donne des informations sur les gens qui nous voient. Et dans le même temps, on est, qu'on le veuille ou non, associé aux médias partisans. Pour des raisons clairement compréhensibles et en même temps parfois un peu révoltantes, parce que moi je ne me résous pas à la généralisation. Je déteste quand on généralise. C'est-à-dire que je trouve que quand bien même il y a des choses qui soient flagrantes, dans le même temps, il importe, surtout dans les mouvements de masse, de faire un exercice et d'avoir une rigueur comme ça, critique et d'analyse, y compris dans l'action. Je veux dire, on n'est pas forcément obligé de céder à la suspicion généralisée contre le média. Ce qui est important, c'est de ça. Parce que très vite, ça devient aussi un discours et une posture pour certains qui sont là dans l'entame de leur activité militante ou autre. Ça fait le geste anti-média, c'est aussi, ça participe aussi de la panoplie, hein, du militant, et notamment c'est un des premiers gestes de pouvoir du jeune militant, hein, d'aller, de se positionner contre la caméra. Ça devient, la caméra devient aussi le bouc émissaire, devient aussi la, voilà. Et là, il y a des choses. Donc, à la fois, évidemment, je comprends, c'est-à-dire comment on peut être extrêmement en colère contre les médias, contre la caméra, contre la façon dont des journalistes filment, photographient, contre ces dimensions très, presque extrêmement prédatrices parfois que certains peuvent avoir dans leur pratique. Et dans le même temps, ce qui est toujours pénible, c'est d'être associé à la généralité, c'est-à-dire d'être pris dans cette espèce de phénomène de généralisation. Voilà, c'est ça qui me semble, pour lequel évidemment je me positionne contre. Voilà, mais en même temps, il faut tenir compte de réalité, parce que l'image produite peut avoir des incidences terribles. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi j'ai vu ça dans les forêts en Afrique. Il y a des pratiques journalistiques parfois qui sont extrêmement périlleuses pour les sujets filmés. On va filmer tel ou tel lieu. Certains journalistes indiquent qu'ils vont ensuite ne pas indiquer le lieu filmé ou décrit dans l'article. Et puis ils se retrouvent, on retrouve à avoir des indications de lieu. Des migrants sont arrêtés. En France, la police peut aussi checker des images, arrêter des personnes. C'est-à-dire que l'image véritablement peut être extrêmement ambivalente. Elle peut être à la fois un outil de dissuasion de la violence policière, parce que c'est avéré, comme elle peut être aussi un outil au service de la répression.
Justement, dans votre film, chaque instant, chaque son, chaque bruit, chaque image, fragment, éclat de cette vie de Paris est précieux, et bientôt le public français pourra le découvrir au cinéma. En tout cas, je vous remercie de nous avoir présenté ce beau film et de nous en avoir si bien parlé, Sylvain Georges. Donc le film, c'est Paris est une fête. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Fred Film Radio, 24/7 on fred.fm and smartphone apps.